France Musique.
Ça y est, vous les entendez, ces cloches.
C'est des vraies cloches de Florence.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre Allegretto d'aujourd'hui, très, très Renaissance. Nous sommes donc à la cour de Florence et de Mantoue dans notre Allegretto d'aujourd'hui au 15e, 16e et 17e siècle, chez les Gonzague et chez les Médicis. Alors c'est un mariage, eh oui, qui a inspiré Allegretto d'aujourd'hui, un mariage sérénissime, un mariage de 1589 qui était donc célébré par les somptueuses festivités au Palais Pitti à Florence. Qui est-ce qui s'est marié? Ferdinand Ier de Médicis et Christine de Lorraine en 1589. Alors, c'était une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, il y avait des intermèdes. Et ces intermèdes étaient tellement importants que l'œuvre était considérée comme le premier opéra. C'est parti. Voici donc le mariage. 1589, nous sommes à la cour de Florence.
Thank you.
Quelle fête ça a dû être quand même à la cour de Florence, 1589, La Pellegrina. Nous écoutions le quatrième intermède de La Pellegrina, composé par Emilio de Cavalieri, ici par les voix de Sophie Juncker, Maëlys de Villoutreis, Luciana Mancini, l'ensemble Pygmalion, ils étaient tous placés sous la direction de Raphaël Pichon. Alors je vous rappelle que ce mariage, cette Pellegrina, c'est-à-dire mariage de Ferdinand Ier de Médicis et Christine de Lorraine, était donc célébré au Palais Pitti de Florence et c'était probablement le divertissement le plus important du XVIe siècle en Italie. D'ailleurs, l'histoire de l'opéra italien se déroule en même temps que l'histoire de l'Italie et son berceau est à Florence. Pourquoi à Florence? Puisqu'il y avait des familles les plus importantes. Elle est plus riche. Alors la famille Medici, elle s'intéresse évidemment aux arts et à la musique. Alors au départ, c'est tout simplement une pièce de théâtre lyrique de Girolami Bargalli. Et puis la famille Medici commande la musique. Ce sont ces intermèdes. Et ces intermèdes, ce sont aussi des œuvres collectives, signées Cristofano Malvezzi, Antonio Arcilei, Emilio de Cavalieri, comme vient d'entendre, Giulio Caccini, Giovanni de Bardi, Jacopo Peri, et j'en passe. En tout cas, on continue dans notre Allegretto très Renaissance et début de baroque. Voici Francesco Barsanti. Il est né un tout petit peu plus tard, 1660. Il représente quelque part Toscane à Londres, puisqu'il est parti très tôt à Londres. Voici donc sa sonate en mi mineur de Francesco Barsanti pour flûte traversière et basse continue au pianoforte Eduardo Torbianelli et la flûte traversière baroque, attention, baroque, Marcantaille. Thank you. Nous écoutions la musique de Francesco Barsanti, sa sonate en mi mineur pour flûte, traversière baroque et basse continue. Basse continue, c'est-à-dire le pianoforte. Ici, il était interprété par Eduardo Torbianelli. Et c'était Marc Antai qui jouait sur la flûte traversière baroque. Alors, retour vers notre Pellegrina, qui a donc influencé l'Allegretto d'aujourd'hui. Cette œuvre collectif composé à l'occasion du mariage de Ferdinand Ier de Médicis et Christine de Lorraine au Palais Pitti à Florence 1589. Voici le quatrième intermède, puisque pour nous ce sont les intermèdes qui comptent. Alors voici ce quatrième intermède qui est composé par Jacopo Peri, et qui s'appelle Il Canto d'Arion, c'est-à-dire le chant d'Arion. Je vous rappelle que Hérodote raconte que Arion, qui était un poète et musicien grec du 7e siècle d'avant Jésus-Christ, était sauvé par sa lyre et par le dauphin, puisque ce sont les matelots qui ont décidé de le tuer pour se partager ses biens. Et avant d'être jeté à la mer, Arion obtient de pouvoir jouer de la sitar pour la dernière fois. Il attire par ses chants un dauphin et s'élance dans les flots. Et c'est le dauphin qui le sauve. Voici donc « Dunque fratorbide onde » de ce chant d'Arion de Jacopo Peri, qui est le quatrième intermède de la Pellegrina. Comme ça, vous savez tout. Paul van Nevel dirige l'ensemble Huelgas.
Oh.
Il faut qu'on se souvienne de ce quatrième intermède de la Pellegrina pour une émission sur l'écho, je trouve. En tout cas, nous écoutions donc Fra Torbide Onde, Il Canto d'Arion, c'est-à-dire le chant d'Arion de la Pellegrina. Ici, le compositeur s'appelle Jacopo Peri et c'était les voix de l'ensemble Huelgas. Ils étaient placés sous la direction de Paul Van Nevel.
Écoutez,
mais qu'est-ce que c'est?
Écoutez,
mais qu'est-ce que
écoutez.
C'est?
Écoutez,
écoutez, c'est vrai?
Qu'est-ce que c'est?
Écoutez, Kézako.
Voici notre Kézako à 11h24. Une question, trois possibilités d'une bonne réponse. On attend vos réponses sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Ça y est, vous êtes prêts? Alors voici un extrait de Rigolette de Giuseppe Verdi qui se passe à la cour de Mantoue. Évidemment, Rigoletto, c'est le roi s'amuse de Victor Hugo, où le héros principal, comme dans l'opéra, est un bouffon, personnage historique sous le règne de Louis XII et François Ier. Et à travers, justement, de ce bouffon, Victor Hugo dénonce la société de l'époque. Et voici donc un extrait de Rigoletto de Verdi que Verdi a placé sur la cour de Mantoue. Alors, comment s'appelle, attention la question, enfin ça arrive, comment s'appelle le bouffon en question dans le drame romantique de Victor Hugo, qui était d'ailleurs créé à la Comédie Française, 1832. Alors il s'appelait Triboulet, Gonella ou Rigoletto. Je répète la question, comment s'appelle le bouffon qui s'appelle dans l'opéra de Verdi Rigoletto? Comment il s'appelle dans le drame de Victor Hugo, qui s'appelle Le Roi s'amuse? Comment s'appelle le bouffon? Il s'appelle Triboulet, Gonella ou Rigoletto? N'hésitez pas, vous nous envoyez un petit courriel sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Et écoutons la Donna Immobile, et nous avons choisi la très belle voix de Michael Spires.
Sempre un amabile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma il vento, muta d'accento e di pensier. E di pensier. Affida chi le confida mal cauto il cuore pur mai non sentasi felice appieno chi su quel seno non liva amore la donna è mobile quale piuma il vento muta Ani pensier
écoutions donc la très belle voix de Michael Spires. L'orchestre de chambre de Moscou était placé sous la direction de Konstantin Orbelian. Nous écoutions donc la Donna Immobile de Rigoletto de Giuseppe Verdi. Un grand merci pour vos réponses sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Alors comment s'appelle le bouffon dans le drame de Victor Hugo, Le Roi s'amuse? Merci vraiment pour vos réponses. Alors, il ne s'appelle pas Gonella. Pourtant, Gonella, c'était un bouffon italien du XVe siècle qui vivait à la cour des Este à Ferrare, mais ce n'était pas lui. Ce n'est pas le Rigoletto. Rigoletto, c'est Verdi qui a choisi ce nom pour le Triboulet, donc le nom du bouffon dans le drame de Victor Hugo. C'est Triboulet, merci pour vos réponses. On continue dans notre allegretto d'aujourd'hui, très, très renaissance et très la cour de Mantoue et la cour de Florence. Ça y est, nous y sommes à nouveau. Voici la suave melodia de Andrea Falconieri pour luth et basse de viol avec Alan Sariel et David Boudaï à la basse de viol. La musique de Andrea Falconieri, cette suave mélodia pour luth et basse de viol avec Alan Sariel et David Boudaï. Nous étions à Florence pour un autre mariage qui était célébré le 11 octobre 1628 et c'était des fiançailles de Marguerite de Médicis et Édouard Farnèse, parce que c'était un mariage de la cour de Florence et de la cour de Parme. Alors ça y est, nous sommes à la cour de Parme, c'est-à-dire la cour de Farnèse. Je vous propose d'écouter la musique de Marco Uccellini qui a vécu à la cour Farnèse à Parme, jusqu'à son décès d'ailleurs, en 1680. Le voici, enfin sa musique de Marco Uccellini, dans cette Mantovana. Vous connaissez la Mantovana puisqu'il existe plusieurs reprises de cette chanson qui est liée à la cour de Mantoue. On la retrouve en Bretagne, en Écosse, en Europe de l'Est. On la retrouve dans Vltava de Smetana et ce thème a inspiré l'hymne israélien Hatikva. Alors voici Mantovana, Marco Uccellini, avec les mêmes, c'est-à-dire David Boudaï, Alan Sariel, Francisca Anna Haidu au violon et Elisabeth Champollion à la flûte à bec. Thank you. belle cette Mantovana, toujours. Alors nous écoutions Mantovana, variation de Uccellini et de Biagio Marini, dans un arrangement pour flûte avec violon et basse continue, avec Elisabeth Champollion, Francesca Anna Haidu, David Boudaï et Alan Sariel. Retour vers la Pellegrina qui nous a inspiré aujourd'hui dans notre Allegretto. Voici déjà le troisième intermède de cette Pellegrina. Alors ce troisième intermède, c'est une œuvre collective, comme il se doit. Il est signé trois compositeurs, Luca Marenzio, Giulio Caccini et Cristofano Malvezzi. Et ce troisième intermède s'appelle Il Combattimento Pittico d'Apollo. Pourquoi Pittico? Puisque c'est le combat d'Apollon contre le Python. Alors ce mythe symbolise notamment la victoire de la lumière solaire, la lumière de la conscience sur les émotions subconsciente, elle-même symbolisée par le python, le serpent, le hydre. Mais la victoire n'est jamais définitive. Voici donc ce Combattimento Pittico d'Apollo avec Skip Sempé qui dirige Collegium Vocal de Gand et le Capriccio Stravagante.
Fuori da fiamme, fuori di schiarugge,
qui l'erbe di fiori distrugge.
Forza, bracciò, fiori, qui fiamme,
une œuvre collective de 1789. Nous écoutions plus exactement le troisième intermède qui s'appelle Il combattimento pittico d'Apollo, composé donc pour la Pellegrina. Ici, les compositeurs s'appelaient Luca Marenzio, Giulio Caccini et Cristofano Malvezzi, et c'était Capriccio Stragavante qui était placé sous la direction de Skip Sempé.
Allegretto, Denisa Kershova, France Musique.
Tous les mardis, nous fêtons les anniversaires des œuvres. Alors voici l'anniversaire d'une œuvre que j'aime particulièrement. Elle s'appelle Islamé, que vous connaissez certainement, cette pièce pour piano de Mili Balakirev, qui était donnée donc pour la première fois par Nikolai Rubinstein, le 30 novembre 1869 à Saint-Pétersbourg. Alors Mili Balakirev parcourt en 1862 le Caucase et la Crimée, et fait connaissance avec les airs folkloriques. Et il tombe vraiment amoureux d'un de ces airs folkloriques qui s'appelle Islamé, et l'adapte au piano, qui a la réputation depuis d'être une des plus difficiles partitions à exécuter jamais écrites. Son caractère est un peu sauvage, démoniaque, un vrai feu d'artifice. En tout cas, Nikolai Rubinstein, qui l'avait créé donc le 30 novembre 1869, dit à propos Islamé, c'est une pièce magnifique, très difficile, peu seront en mesure de la maîtriser. Voici donc Islamé par Mili Balakirev.
Thank you.
formidable cette pièce pour piano de Mili Balakirev, Islamé, de l'opus 18, et au piano c'était Alexandre Kantarov, cet Islamé qui était donc créé le 30 novembre 1869 à Saint-Pétersbourg. Bel anniversaire, Islamé. Changement de répertoire. Nous ne sommes pas dans la pièce qui arrive ni à Florence, ni à Mantoue, ni à Parme. Nous sommes à Rome pour écouter forcément la fontaine de la Villa Médicis au soleil couchant de Ottorino Respighi. Je rappelle que cette villa héberge l'Académie de France à Rome et accueille les lauréats du prix de Rome depuis 1803. Quel est le lien entre la Pellegrina et la Villa Medici à Paris? Énorme, énorme, vous allez voir, puisque c'est le même Ferdinand de Medici qui se marie sous les sons de la Pellegrina, qu'il a acheté en 1576, et il se présente même dans la chambre dite des Muses, en Jupiter régnant sur les arts par le peintre Jacopo Zucchi. En tout cas, voici cette fontaine de Ottorino Respighi. István Kertész dirige l'Orchestre symphonique de Londres.
Thank you.
Il faut qu'on demande de diffuser un jour Allegretto à partir de la Villa Médicis au soleil couchant, je trouve. Nous écoutions donc en tout cas cette fontaine de Rome qui s'appelle comme ça, la fontaine de la Villa Medici au soleil couchant de Ottorino Respighi. C'était István Kertész qui dirigeait l'Orchestre Symphonique de Londres. Encore un compositeur qui fait partie de ce très beau bouquet des compositeurs qui travaillaient, qui vivaient à la cour de Mantoue et à la cour de Florence. Voici donc Emilio de Cavalieri. Nous n'allons pas écouter l'un des intermèdes de la Pellegrina, mais un extrait de sa représentation de l'âme et du corps. Alors, est-ce que c'est un opéra ou un oratorio? Bon, son contenu, le contexte de sa représentation la font pencher du côté de l'oratorio. Mais la représentation scénique le fait pencher vers l'opéra. En tout cas, c'est la première tentative dont on a une trace complète visant à conjuguer ce qu'on appelle action dramatique et action musicale. Voici donc un extrait de cette Représentazione di anima e di corpo de Emilio de Cavalieri. D'ailleurs, comme demande le compositeur dans la préface de la partition imprimée, le plaisir et ses acolytes doivent être accompagnés d'une petite guitare espagnole, puisque c'est quelque part un dialogue entre le plaisir et anima et di corpo. Voici le concerto vocale avec le chœur de l'Opéra d'État de Berlin, l'Académie für Alte Musik de Berlin, et ils sont tous placés sous la direction du grand René Jacobs.
Come ti canto lieta compagnia. Scena del re, sempre strada, ovanti ci desira,
il faut imaginer cette musique, cette représentation di anima et di corpo de Emilio de Cavalieri, il faut l'imaginer entièrement mise en scène avec des costumes, des décors, machines de scène et présentée en février 1600 à Rome devant les membres du Sacré Collège. Alors vous avez entendu comment on s'approche de plus en plus de l'opéra. Nous écoutions donc cette œuvre de Emilio de Cavalieri et l'âme était chantée par Marie-Claude Chapuis. Le corps, c'est un homme, était chanté par Johannes Weisser. Le plaisir était chanté par Marc Milhofer. L'Académie für Alte Musik de Berlin, concerto vocal et le chœur de l'Opéra d'État de Berlin étaient placés sous la direction de René Jacobs. De toute façon, vous trouverez toutes les références de nos œuvres sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Retour à la cour de Mantoue, puisque je trouve qu'on n'était pas assez à la cour de Mantoue. Et nous sommes plus exactement au théâtre Bibiena à Mantoue, qui s'appelle aussi Teatro Scientifico. C'est un théâtre baroque reconstruit 1769 et son origine remonte au XVIe siècle. Mais il a tombé en ruine en même temps que la maison des Gonzagues, dont la chute définitive arrive vers 1707. Mozart a joué ici à l'âge de 14 ans. Dans ce disque qui arrive, nous sommes en 1987. C'est le récital de Sviatoslav Richter au théâtre Bibiena à Mantoue. Voici le presto de la sonate en son majeur de Joseph Haydn.
Thank you.
enregistré au théâtre Bibiena à Mantoue en 1987. Plus exactement, nous étions au récital de Sviatoslav Richter pour écouter ce presto de la sonate en son majeur de Joseph Haydn. Encore un compositeur qui fait partie de notre bouquet des compositeurs autour de la cour de Florence et de Mantoue. Il faut que je vous parle de Giacomo Antonio Perti, compositeur italien, un maître de chapelle, principalement dans la ville de Bologne. Bon, plutôt l'époque baroque. En tout cas, quel est le lien avec les Medici? C'est-à-dire Ferdinand III Medici était son grand mécène. Alors voici un extrait donc de la Lingua Profetica del Taumaturgo di Paola San Francesco, c'est-à-dire la langue prophétique de Taumaturge, faiseur de miracles, Saint François de Paul. Voici Jean-Marc Ems qui dirige l'ensemble Suave Concerto. Un extrait de la Lingua Profetica del Taumaturgo di Paola San Francesco de Giacomo Antonio Perti avec Jean-Marc Ems qui dirigeait le Suave Concerto. Alors vous connaissez peut-être donc Saint François de Paul, ce faiseur de miracles. D'ailleurs, l'un de ses miracles, c'est la traversée du détroit de Messine sur son manteau étendu après que le patron de barque Maso lui a refusé de le faire passer avec quelques disciples gratuitement, et en raison de ce miracle, Saint François de Paul est déclaré patron des marins italiens. Comme ça, vous savez tout. En tout cas, la musique, elle date, cet oratorio date exactement de 1700.
Allegretto, Denisa Kershova, France Musique.
On quitte la cour de Florence et la cour de Mantoue et la cour de Ferrare pour le palais Neptune à Toulon. Alors nos invitations sont pour le concert du Gershwin Piano Quartet et nos invitations sont pour le lundi 6 décembre à 20h au palais Neptune à Toulon. Pour ce dernier concert de l'année, la saison du Festival de musique de Toulon présente donc une formation tout à fait originale, le Gershwin Piano Quartet, c'est-à-dire quatre pianistes et quatre grands pianos de concert. Cet ensemble apporte C'est vrai, un éclairage nouveau sur la musique de George Gershwin en interprétant des arrangements et des improvisations sur les pages les plus populaires. Les répertoires du Quatuor ne se limitent pas seulement à la musique de Gershwin, ils jouent aussi la musique de Stravinsky ou la musique de Ravel. En tout cas, c'est André Despons qui a fondé le Gershwin Piano Quartet en 1996 et depuis, il tourne dans le monde entier. Gershwin Piano Quartet, c'est Misha Chung, Benjamin Engeli, André Despons et Stéphane Werth, au programme de ce concert lundi 6 décembre à 20h au Palais Neptune à Toulon, Tchaïkovski, Rachmaninov, Saint-Saëns, Chopin et évidemment Gershwin. En tout cas, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit courriel sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto.
Thank you.
Ainsi se termine notre Allegretto d'aujourd'hui avec ce Gershwin Piano Quartet. Vous avez reconnu I Got a Rhythm. Et il nous reste quelques invitations donc pour leur concert lundi 6 décembre à 20h au Palais Neptune à Toulon. Ainsi se termine notre Allegretto di La Pellegrina. Un grand merci à José Bernès qui était aujourd'hui à la technique, Arnaud Chapat à la réalisation, Maud Nourry, l'attaché de l'émission. Portez-vous bien, passez une très belle journée sur France Musique. Je vous retrouve demain à 11h.
À réécouter sur francemusique.fr.